À travers la photographie, j'ai toujours cherché à révéler la lumière qui est en chacun de nous. Je m'appelle Andréane de Barry, je suis photographe et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Solaire. Les invités de ce podcast sont des hommes ou des femmes, connus ou moins connus. Ils ont des parcours qui les rendent uniques et exercent des métiers aux horizons multiples. Mais ils ont tous un point commun, ils sont lumineux et inspirants. Ici, mes invités vous partagent leurs expériences de vie, leurs souvenirs d'enfance et ce qui les a construits, les liens qu'ils ont su tisser, mais aussi les voyages qui les ont marqués ou les histoires d'amour qui ne sont pas près d'oublier. Dans le podcast Solaire, je vous propose d'écouter des conversations lumineuses pour nourrir votre âme de belles choses. Dans ce premier épisode du podcast Solaire, j'ai échangé avec la thérapeute de couple et sexologue Thérèse Argot. J'ai rencontré Thérèse il y a quelques années et j'ai été frappée par le mélange de force et de douceur qui émanait d'elle. Une douceur doublée d'un regard profond, deux grands yeux bleus qui vous scrutent. Quand elle vous écoute, vous avez l'impression d'être seule dans la pièce. Thérèse a une grande qualité de présence et elle ne s'économise pas dans ses combats. Celui pour limiter l'accès à la pornographie, mais aussi celui de l'amour durable, car elle est convaincue que l'on peut apprendre à aimer et se laisser aimer. Thérèse Argot est sur tous les fronts. Auteure de 5 livres, elle reçoit en consultation dans son cabinet, intervient sur des conférences ou des plateaux télé et organise des stages qui accompagnent des couples ou des célibataires. Dans cet épisode, j'ai voulu vous faire découvrir la femme qui se cache derrière la personnalité publique. Thérèse nous parle de son enfance dans une famille imprégnée de spiritualité, de son apprentissage de l'amour et de ses difficultés, ou encore de son hypersensibilité. Mais je ne vous en dis pas plus, laissons place à notre conversation. Bonjour Thérèse.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être mon invitée sur le podcast Solaire. Dans quel endroit sommes-nous pour l'enregistrement de cette interview ?
Alors là, on est chez moi. Et chez moi, c'est un endroit très particulier parce que j'habite en plein cœur de Paris. C'est un appartement totalement atypique parce que j'ai une vue sur quasi tout Paris, très lumineux. Et c'est ici que, à la fois, je vis avec mes 3 enfants, mais aussi je travaille. J'accompagne des personnes dans le cadre de consultations en thérapie de couple ou bien sexologie dans cet appartement. Et surtout aussi, j'anime beaucoup de stages. Je donne des formations et c'est aussi ici que je reçois.
On va commencer par rembobiner un peu le film de ta vie. Peux-tu me décrire les vibrations de ton enfance ?
Ce sont des vibrations très profondes, très spirituelles. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient comme ça quand je te réponds spontanément à ta question. Des vibrations très spirituelles. Quand je dis ça, ça veut dire que je pense que mon enfance a été extrêmement marquée par une vie spirituelle intense, à la fois que je vivais, mais qui venait aussi du cadre familial dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille très croyante, très catholique, très pratiquante. Et donc, on vivait de la foi en Dieu du matin jusqu'au soir, quoi. Donc voilà, ça, c'est peut-être les vibrations que j'ai le plus reçues.
Vos parents ont essayé de vous inculquer cette foi. C'était une obligation d'aller à la messe, de prier, ou ils vous ont emmené là-dedans et vous les suiviez ? Comment tu l'as vécu ?
Non, j'ai aucun souvenir que mes parents m'aient forcé à faire quoi que ce soit en termes de pratique religieuse. J'ai pas du tout eu des parents rigides qui nous imposaient la foi ou la pratique, pas du tout. J'ai des parents qui sont profondément croyants, c'est-à-dire qu'ils croient profondément à l'existence de Dieu et ils ont toute leur vie donnée pour les autres et répandre cette nouvelle que Dieu aime les uns les autres, bref, c'est répandre l'évangile, quoi. Donc c'est des gens qui vivent leur foi pleinement. Et donc ça, c'était quand même très fort dans mon enfance. Mais par contre...
C'était inspirant ?
Alors, c'était... Est-ce que c'était inspirant ? En fait, on ne comprend pas mon histoire si on ne comprend pas que ma mère, pendant de très nombreuses années, voulait être religieuse. Donc moi, j'ai une mère qui voulait être religieuse. Et puis, pour une histoire qu'un jour, peut-être que je raconterai, mais je ne peux pas raconter là, elle a décidé finalement de se marier avec mon père, mais tout en ayant toujours ce désir de la vie religieuse. Et donc, j'ai l'habitude de dire que j'ai été éduquée par une mère abbesse. Cette mère abbesse, ça veut dire c'est une mère supérieure, quoi, une femme qui est la responsable d'un couvent. Et donc, j'ai comme si j'avais vécu la vie un peu monastique pendant toute mon enfance jusqu'à mes 17 ans, ce qui est extrêmement particulier. Donc, j'ai vraiment une enfance très, très, très particulière, très étrange. Voilà, marquée par cela, par des rythmes de prière réguliers, le matin, les laudes, le soir, les complis. Les complis ou les laudes, ce sont des noms qu'on donne pour des prières de la vie religieuse. Évidemment, la prière avant chaque repas, évidemment plusieurs fois par semaine d'aller à la messe. Donc voilà, donc j'étais prise dans une vie presque monastique quand j'étais enfant. C'est étrange, hein, mais c'est vraiment ma vie.
Est-ce que c'était une éducation stricte ?
Pas du tout. Non, non, j'ai pas du tout des parents stricts. Et c'est là que ça fait un cocktail bizarre que je sais très bien, les Français qui me connaissent n'arrivent pas à comprendre d'où je viens, d'où je sors, parce que selon les critères un peu français, quand on est croyant, catholique, quand on est élevé dans une famille catholique nombreuse, en général, c'est une famille un peu, on a la vie est un long fleuve tranquille en tête, alors que pas du tout, du tout, du tout. Mes
non,
parents
mais tu parlais d'une
complètement
vie monastique.
Bohème. Oui, donc le côté monastique, ça veut dire qu'on avait ces rythmes de prière, mais ce n'était pas strict dans le sens où, avec une certaine rigidité, il n'y avait pas du tout cela. Mes parents étaient plutôt des gens... Il y avait un mélange un peu de côté, un peu 68-art quand même. 68-art, Cato, je ne sais pas, ça fait un mélange très, très bizarre. Ça veut dire qu'ils étaient... à la fois, il y avait un côté un peu bohème, quoi, à la maison. Il y avait vraiment un côté bohème. On était tous ultra mal sapés. On était... Enfin, ils s'en foutaient complètement. On était éduqués dans des écoles alternatives, type Montessori. Voilà, avec des...
Très ouverts.
Très ouverts, hyper avant-gardistes dans l'éducation qu'on donnait aux enfants. Donc, c'est un mélange très, très atypique d'où je viens.
Tu viens d'une famille nombreuse ?
Très nombreuses.
Très nombreuses. Vous êtes huit.
On est huit enfants. Vous imaginez, huit enfants. Et moi, je suis la quatrième en cinq ans. C'est-à-dire que mon frère aîné avait cinq ans quand je suis arrivée.
Ah ouais.
C'est quand même complètement fou.
On passe d'une maman qui a des rêves de devenir nonne à une maman qui fait huit ans.
Exactement.
Enfants.
C'est incroyable. Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux me parler de ce que ça t'a apporté d'avoir autant de frères et sœurs comme joie ou comme difficulté ?
Comme joie d'abord, parce que... En fait, on est un clan, quoi. On est hyper soudés. On s'aime très fort dans notre famille. Ce qui se passe, c'est qu'on n'était jamais seuls. Il y avait tout le temps quelqu'un avec qui jouer, avec qui s'amuser, avec qui partager. Mes frères et sœurs sont mes meilleurs amis. C'est bizarre de dire ça, mais on n'avait pas besoin d'autres amis parce qu'on avait déjà tout à la maison. On avait toujours quelqu'un avec qui faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que quand j'étais enfant et même après jeune adulte, je n'ai pas beaucoup donné d'espace pour l'amitié. C'est comme si je n'avais pas besoin d'avoir des amis. J'en ai eu quelques-uns, évidemment, hein, mais pas... Les amis, pour moi, ont une place assez secondaire. Mes frères et sœurs sont d'abord premiers et on est très soudés, on est très liés les uns avec les autres. Et puis, je te disais qu'on a eu une enfance extrêmement atypique. Vraiment, je connais personne qui a une enfance comme la mienne. On a grandi dans un univers très spécial, donc on était toujours en décalage avec les autres. Et les personnes qui peuvent le mieux me comprendre, ce sont mes frères et sœurs. Quand, par exemple, il y a quelques mois, je me retrouve au Maroc, je m'accorde deux semaines pour aller faire du kitesurf au Maroc. Et j'ai un de mes frères au téléphone, et avec lui, on peut rire pendant des heures sur le fait que je culpabilise de prendre deux semaines pour moi toute seule à faire du kitesurf au Maroc, parce que dans l'éducation qu'on a reçue, non, on ne fait pas ça à une femme qui est en plus une mère, ne va pas deux semaines dans un désert marocain pour faire du kitesurf. Mais lui peut comprendre, et on rigole, ou avec mes sœurs quand on s'appelle, parce que on parle d'avoir fait une séance de yoga, et on se dit toutes les quatre qu'on culpabilise d'avoir fait une séance de yoga, parce que nous, dans notre éducation, faire du yoga, c'était mal et c'était vraiment un peu un péché. Genre c'était immoral de faire ça. Vous allez me prendre pour une folle quand je vous raconte ça, mais c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue. Mais on rit pendant des heures entre sœurs sur cette espèce de culpabilité qu'on a. Donc elles me comprennent, évidemment, que personne ici qui est en train d'écouter ce podcast peut comprendre que je puisse avoir une culpabilité en faisant du yoga. Mais quand on sait d'où je viens, on comprend pourquoi ça vient. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'avec mes frères et sœurs, on a une relation très forte et beaucoup de rire, parce qu'on arrive à avoir beaucoup d'humour sur notre vie. On ne l'a pas précisé, moi j'ai une famille belge, on a un sens de l'autodérision impressionnant. On sait rire de nous-mêmes, on ne rit que de nous-mêmes, on ne rit jamais des autres. C'est une règle, un principe. Donc tu n'entendras jamais personne rire en se foutant de la gueule de quelqu'un. Ça, je ne comprends pas, parce que je trouve que c'est un truc très français.
C'est très belge de ne pas se
moquer des autres. De ne pas se moquer des autres, et on se moque de nous-mêmes. Mais on peut rire de nous pendant des heures et des heures, mais jamais des autres. Et donc voilà, bref, c'est pour dire que cette famille, elle, et ses frères et sœurs sont vraiment très importants dans ma vie.
Donc pour toi, c'est beaucoup plus de joie que de difficulté d'avoir autant de frères et sœurs.
Oui, en fait, mes difficultés ne viennent pas de mes frères et sœurs, vraiment pas. Ce qui était extrêmement difficile à vivre pour moi, c'est que ben, quand tu es la quatrième d'une famille de 8 enfants, en plus 4 en 5 ans, eh ben, ça peut laisser des impressions et de ne pas être unique, de ne pas être désirée, de ne pas être aimée. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant 39 ans de ma vie. Je ne me suis jamais sentie aimée de mon père ni de ma mère pendant toutes ces années. Alors que oui, je sais que mon père m'aime et que ma mère m'aime. Je le savais intellectuellement parce qu'il nous disait « Oui, bien sûr qu'on vous aime. » Mais je ne le ressentais pas. Et je ne le ressentais pas parce que mes parents ne m'ont pas accordé des moments juste pour moi, les moments de qualité, n'ont pas eu des petites attentions de cadeaux non plus, n'ont pas eu des paroles valorisantes, n'ont pas eu des gestes de tendresse juste pour moi, n'ont pas voilà, été vraiment en train de prendre soin de moi. Donc, je n'ai pas ressenti leur amour et surtout, je n'ai pas ressenti leur désir que j'existe. C'est étonnant de dire ça, mais je pense que c'est quand même fondamental dans une vie. Est-ce qu'on se sent désiré? Est-ce que notre vie a été désirée? Et moi, j'ai toujours eu cette conviction intime que ma vie n'était pas désirée. Et j'ai compris récemment par une discussion avec mes parents qu'effectivement, ils n'avaient pas désiré ma vie, mais ils sont dans l'acceptation de la vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'ils ont toujours accueilli la vie avec joie. Donc, quand ils ont appris certainement mon existence, la grossesse, ils ont été heureux, mais ils n'ont pas été dans le désir. Ils sont dans l'acceptation, mais pas le désir. Et ça n'a pas les mêmes conséquences dans notre vie. Donc voilà, moi, j'ai souffert, profondément souffert, de ne pas m'être sentie désirée. Voilà, c'est bizarre.
Avec leur foi, en fait, ils se protégeaient pas. Donc, ils avaient des... enfin, ta maman tombait enceinte et elle acceptait ses grossesses. Et,
ouais,
et donc, du coup, il n'y avait pas une vraie envie d'avoir un enfant et de se consacrer à cet enfant.
Non, c'est ça, en fait. Ça, c'est un truc que peut-être d'autres personnes peuvent ressentir s'ils ont vécu dans une famille catholique, très catholique. C'est qu'il y a l'accueil de la vie. Donc, on accueille les grossesses et on se réjouit en général. En tout cas, on ne s'autorise pas à ne pas s'en réjouir. Moi, je pense que parfois, ces femmes qui ont beaucoup d'enfants, elles doivent quand même être un peu déstabilisées par une nouvelle grossesse et peut-être une partie d'elles peut être effrayée ou triste par le fait d'avoir encore un enfant. Mais par contre, il n'y a pas cette histoire de « on va désirer un enfant, on va je ne sais pas si vous comprenez cette différence, mais on va le penser, on va y rêver ensemble. Et donc, quand il arrive, on sent que c'est le fruit d'un désir. Voilà. Ce n'est pas la même chose. C'est une petite nuance là, mais elle a changé toute ma vie, elle est fondamentale. Maintenant, j'ai compris ça et j'étais contente que ma mère accepte cette distinction-là parce que souvent, je lui disais, « Maman, je ne me suis jamais sentie désirée de vous. » Elle dit, « Mais si, bien sûr, on était heureux de ta naissance et tout ça. » J'ai dit, « Non. » Et je le savais que non. Et elle dit, voilà, cette acceptation, mais pas le désir. Et moi, je pense quand même que c'est un cadeau qu'on fait à nos enfants quand on les désire.
Tu parlais des langages de l'amour.
Oui.
J'avais une question là-dessus. Donc, pour faire un rappel, ce qu'on appelle les langages de l'amour, il y a 5 langages de l'amour. Les services rendus, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux et le toucher physique. À quel langage de l'amour es-tu le plus sensible ?
À moi, les touchers physiques. Là, de très loin.
T'es quelqu'un de très tactile.
Ah, mais je suis quelqu'un d'ultra sensuel, d'ultra tactile. Et c'est pour ça que moi, j'adore faire l'amour. Je comprends pas ces femmes qui n'aiment pas faire l'amour. Je comprends pas qu'on ait pas envie de faire l'amour au moins une fois par jour minimum. Je suis vraiment quelqu'un qui est... J'ai ce langage-là, tu vois. Et ça laisse beaucoup d'incompréhension avec la gente féminine parce que j'ai un truc... qu'on va plutôt attribuer au masculin. La plupart des hommes ont ce langage-là. Et donc, je m'entends très, très bien avec les hommes. mais moi, c'est vraiment mon langage premier. Alors, j'ai aussi les paroles valorisantes. C'est important pour moi. Mais je dirais en seconde, alors qu'on va penser que ce serait en premier, non. C'est-à-dire, les paroles valorisantes, elles sont nécessaires aussi. Elles viennent me remplir vraiment d'amour. C'est pour ça que j'étais très touchée. Enfin, je suis toujours touchée de recevoir beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui suivent mon travail, qui me remercient. À chaque fois, ça me touche. Donc, ça va vraiment remplir mon réservoir affectif. Mais vraiment, le toucher, c'est fondamental.
Je reviens un peu sur ton enfance. Tu étais quel type d'enfant à l'école ? Solitaire ou sociable ? Solaire ? Renfermé ?
Ah non, j'étais plutôt très solaire. Je crois que surtout mes petits bulletins scolaires, oui, les petits commentaires des professeurs, en tout cas dans mon école, sur les petits commentaires de professeurs, c'était toujours dire que j'étais très souriante. Et peut-être que là, il y a toujours eu un contraste dans ma vie, c'est que je crois que je renvoie quelque chose de très solaire, de très lumineux, de très souriant, etc. Et en même temps, au fond de moi, je vois des parties très noires, très dures, parce que je te parle du fait que je ne me suis pas sentie aimée de mes parents. Je te parle du fait que je ne me suis pas sentie désirée d'eux, avec donc une vraie détresse intérieure. Il y a un décalage chez moi que personne ne peut percevoir au premier abord, mais toute personne qui me connaît de très très proche le découvre et est un peu déconcertée de voir ce décalage entre l'image que je renvoie et les zones de détresse intérieure que je peux ressentir. Et donc, à l'école, j'étais une petite fille assez joyeuse. Et en même temps, j'avais toujours le cafard. J'étais un peu de quitter mes parents, d'être triste. Donc, par exemple, les moments de séparation étaient difficiles pour moi. Donc, par exemple, la rentrée était difficile. Je pouvais facilement pleurer quand on partait en voyage scolaire, des choses comme ça. Ça montrait bien peut-être cet état de vulnérabilité que j'avais aussi. J'étais plutôt meneuse de bande quand j'étais petite, avec des chouettes copines, hyper sociables. Je suis une 100% extravertie, moi. Donc, dans mes profils, la MBTI, quand on fait des profils de personnalité, moi, je suis 100% extravertie. Donc, je me nourris dans la relation aux autres. Et avec des chouettes copines, quand même, quand j'étais enfant, j'avais des chouettes copines. J'aimerais bien les revoir, d'ailleurs.
Tu as grandi en Belgique ?
Oui, j'ai grandi en Belgique, dans un quartier. Donc, en fait, mes parents viennent tous les deux de familles assez bourgeoises belges. Donc, des familles très privilégiées, c'était dans des très bonnes écoles de Bruxelles, des parents qui avaient vraiment un vrai confort de vie. Et mon père et ma mère ont décidé de quitter leur milieu social pour s'installer d'abord dans un quartier. Moi, je suis née dans un HLM à Bruxelles, dans des tours HLM, en plein cœur de Bruxelles, dans le quartier nord, à côté de la gare. Et donc, en fait, moi, je suis née là, quoi. Et ils ont décidé, parce qu'ils avaient une formation en sciences sociales, d'être vraiment auprès des personnes qui sont dans les plus grandes souffrances de précarité matérielle. C'est assez beau, quand même, aussi, comme un engagement, mais c'était très radical. Et il y avait une vraie rupture familiale, en tout cas, qui caractérise aussi mon histoire. Et puis après, ils ont décidé de vivre dans un autre quartier qui s'appelle Neder-Overheimbeek, qui à l'époque était un quartier aussi assez populaire, qui maintenant change un petit peu. Et donc avec ce désir de vivre auprès des personnes peut-être plus simples, plus fragiles de notre société. Ça, c'était vraiment un désir de mes parents. Ça veut dire aussi que très concrètement, moi, je suis marquée par une éducation dans laquelle il y avait permanence dans ma famille des personnes en situation de précarité, que ce soit des SDF qui passaient à la maison, qui venaient dîner chez nous, que ce soit aussi des femmes qui étaient enceintes mais qui ne pouvaient pas garder, qui étaient en rupture familiale ou quoi, qui étaient dans une situation de détresse. Et donc, elles passaient leur grossesse à la maison pour qu'elles puissent après accoucher dans de bonnes conditions. On a eu quand même au moins 3 ou 4 femmes comme ça qui sont passées à la maison. Ils étaient aussi une famille d'accueil pour des enfants qui étaient placés par le juge quand les parents allaient en prison ou avaient des difficultés. Ils ont aussi accueilli des Russes qui avaient l'histoire de Tchernobyl. Enfin, on avait en permanence des personnes qui étaient accueillies dans la maison, des personnes en situation compliquée, quoi.
En plus de leurs huit enfants.
Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Ils ont été fous.
C'est une sainte, ta maman.
Mais en fait, non. C'est pas bien que je dise ça, mais non, c'était pas une sainte. Parce qu'en fait, où on pourrait se dire ce sont des saints, mes parents, d'avoir fait ça. Mais je pense qu'ils nous ont beaucoup fragilisés à force d'être dans cette ultra-générosité pour les autres.
C'était trop ouvert.
C'était 1000 fois trop.
La porte était trop ouverte.
Non, ça veut dire qu'on n'a pas reçu la base, nous, quoi. On était là aussi. Aujourd'hui, ils le reconnaissent, mais c'est comme ça. C'est mon histoire et c'est leur vie. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on peut en parler ensemble et ils sont à l'écoute quand on leur dit que ça a été difficile à vivre pour nous. Mais je ne recommande à aucun parent de faire ça.
Est-ce que ça t'a inquiété d'avoir ces étrangers dans ta maison ?
Parfois, c'était difficile. Par exemple, je me souviens très bien, petite fille. En plus, moi, j'ai plutôt... je t'ai dit que je suis très sensible. J'étais très... J'avais une petite coquetterie, etc. Parfois, c'était difficile quand j'étais petite, quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, d'être à côté de personnes SDF, par exemple. C'est pas évident pour une petite fille. Enfin, je pense que pour n'importe quelle petite fille, mais pour moi, ça l'était pas toujours. D'avoir toujours d'autres personnes qui sont là. J'avais plus de facilité quand c'était des enfants qui venaient à la maison que des adultes. Et un jour, je l'ai dit à mes parents ils m'ont toujours dit que c'était un peu à cause de moi ou grâce à moi, je ne sais pas comment il faut le prendre, qu'ils ont décidé finalement d'accueillir toutes ces personnes dans un autre lieu. Ils ont créé une communauté, mes parents, une maison qui s'appelle la Maison Saint-Nicolas à Bruxelles. Et c'est une maison dans laquelle ils reçoivent ils recevaient à l'époque des personnes, toutes sortes de personnes en situation de précarité. Et donc finalement, ils ont décidé de ne plus tout lier entre la famille et leur générosité. Mais donc pour moi, c'était difficile. Oui, par moments, c'était difficile.
Est-ce que tu peux me décrire l'adolescente que tu es devenue ?
Quand j'étais adolescente ? Comment j'étais adolescente ? Alors moi, j'ai deux périodes adolescente. J'ai une période où j'étais très, très croyante toujours, parce que donc, je vous rappelle, donc, je suis élevée dans cette famille hyper catholique. quand même que vous puissiez imaginer ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que non seulement j'étais habillée comme un sac, mais je ne sais même pas comment c'est possible. C'est horrible. Mes parents n'avaient rien à foutre de l'apparence corporelle. Alors maintenant, je suis assez coquette. J'ai une grand-mère maternelle qui vient d'ailleurs de nous quitter il y a quelques jours, qui était extrêmement coquette. Et ma mère n'était pas du tout. Et c'est comme si ces petites filles, on le redevient. et donc j'étais à la fois donc habillée de façon hyper simple, parce que évidemment que mes parents n'achetaient, enfin évidemment, si vous comprenez le type de famille dans laquelle j'étais, n'achetaient aucun vêtement, on recevait des vêtements. Donc j'ai dû avoir ma première robe, mon premier achat, un vêtement neuf, vers 12-13 ans. Tout ça pour te dire que l'adolescente que j'étais, la première partie, c'est que parfois, enfin jusqu'à mes 15 ans à peu près, je portais encore une croix en bois au-dessus de mes vêtements. Donc, je te dis, quand j'étais éduquée dans une famille religieuse, vraiment, tu vois. Et donc, j'avais ma croix en bois comme une bonne sœur, quoi. Et puis, à 15 ans, j'ai perdu la foi. Je n'ai plus réussi à croire en l'existence de Dieu. Et c'est venu comme une grande quête existentielle, enfin, comment dire, quelque chose de philosophique. Je n'arrive pas à croire que Dieu existe. Et je me suis dit, Dieu est une construction de l'homme, mais Dieu n'existe pas, la personne de Dieu n'existe pas. Je passe sous les détails, mais à moi, ça s'est imposé à moi. Et depuis ce jour, je n'arrive plus à croire en l'existence de Dieu. Et donc, forcément, ça a été très perturbant, parce que je passais d'une vie où toute ma vie était fondée sur l'existence de Dieu à « je ne crois plus en Dieu ». Donc, ça a été comme si j'avais un rocher comme ça qui disparaissait, et je suis tombée dans un gouffre, tu vois, c'était complètement vertigineux. C'était très angoissant et très vertigineux, mais je le gardais pour moi, parce que toujours dans cette éducation, on te dit, c'est normal de perdre la foi, tu vas la retrouver. Les grands saints ont aussi perdu la foi. Et donc, d'un coup, j'avais une grande sainte parce que j'ai perdu la foi aussi. Non, j'ai dit ça avec vraiment de l'humour, c'est ce qu'on racontait, mais je trouve ça drôle parce qu'évidemment, c'est faux. Je ne suis pas du tout une grande sainte. Et donc, finalement, j'ai vécu dans cette période où je ne savais pas trop, je me dis, ça va revenir. Donc, je continue à pratiquer en me disant, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Et en fait, c'est jamais revenu. Là, j'ai 39 ans et je n'ai toujours pas la foi. Donc, voilà. Et donc, après l'adolescence, ce qui s'est passé, c'est que, imagine, j'ai 15 ans, toute ma vie repose sur la foi en Dieu et donc les principes religieux. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai plus Dieu dans ma vie ?
Comment je me construis ?
Et comment je me construis ? Et à 15 ans, moi, jeune fille de 15 ans, est-ce que je commence à sortir avec les garçons ? Est-ce que je commence à avoir des relations sexuelles avec eux ? Est-ce que je fais comment pour ma vie de femme ?
T'avais confiance en toi ?
Non, je pense que j'avais aucune confiance en moi, puisque je n'ai jamais senti le regard même de mon père posé sur moi. Mais mon père, j'ai un père qui m'a jamais dit « tu es belle Thérèse hein. », enfin je n'ai jamais entendu ça.
Il n'avait pas le temps de te regarder.
Mais non, je ne sais pas ce qu'il foutait. Alors, mais aujourd'hui j'ai une belle relation avec lui, donc c'est beau, il s'est rattrapé là, cette année. C'est magnifique de voir un papa qui est capable de se rattraper aussi, donc je le dis avec beaucoup de tendresse. C'est peut-être pour ça aussi que je me sens libre d'en parler aujourd'hui. Mais moi non, j'ai jamais entendu ces paroles-là. Donc je ne savais pas si j'étais belle. Je me suis toujours pensée extrêmement moche, extrêmement bête, extrêmement insignifiante. Enfin, j'ai un regard sur moi qui était hyper dur parce que justement, je n'avais pas reçu ce regard d'amour. Je ne l'ai pas eu, quoi. Donc, j'allais chercher auprès des garçons. Donc j'étais un contraste. Alors vraiment, vraiment n'importe quoi. Donc à la fois un peu la cato qui n'avait pas de relations sexuelles avant le mariage. Je ne sortais quasi pas avec les garçons. J'ai eu quand même quelques petites histoires, mais c'était... Voilà. Et en même temps, ultra sensuelle, une vraie allumeuse. C'était la réputation que j'avais, c'est que j'étais une énorme allumeuse, ce que je suis certainement. Et donc j'avais ce truc-là, tu vois, de la super allumeuse, mais qui ne couche pas avec les garçons. Un truc complètement...
Tu découvrais ta sensualité, tu les séduisais, mais oui. Tu n'allais pas plus loin.
Mais non,
parce que pourquoi non, pour des principes pour catholiques des principes.
Et alors justement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça a du sens ou pas maintenant que j'ai plus la foi ? Et moi, je me suis dit, si ça a du sens pour moi de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, de vivre cette virginité, à ce moment-là, dans ma vie, ça avait du sens. Bon, après, je me suis mariée à 19 ans, donc ça va, j'étais pas très en retard. Mais j'ai vraiment vécu ça. Et pour le coup, je regrette énormément de choses dans ma vie. Je suis une femme qui regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes choix. Mais il y a une chose que je ne regrette pas. C'est d'avoir vécu cette virginité, le fait de ne pas avoir eu de relation sexuelle avant mon mariage, mon premier mariage. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir construit un rapport à la sexualité qui était beau. Et en fait, avec mon premier mari, On a développé toute une vraie sensualité. On a préparé nos corps en fait à faire l'amour, et donc on a eu une vie sexuelle qui était extraordinaire. Et je n'ai jamais cessé d'avoir une vie sexuelle extraordinaire. J'adore ma vie sexuelle, mais pourtant, quand j'étais adolescente, à ce moment-là, vers mes 15 ans, mes 19 ans, etc. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas de relation. Mais j'étais donc j'étais
quand même très.
On a découvert ça ensemble et on s'est bien préparé. Et je pense que je dois ma vie sexuelle que j'adore. J'adore ma vie sexuelle grâce aussi à ce petit moment pendant l'adolescence où je me suis pas éparpillée, où j'ai essayé d'être très à l'écoute de ce que je ressentais et apprivoiser ma sexualité doucement, pas aller tout de suite à la génitalité, mais d'aller progressivement vers une découverte. En tout cas, ça j'ai apprécié dans ma vie. Et après, ce qui caractérise aussi mon adolescence, c'est que c'est quand même à 15 ans, toujours au même moment, c'est un peu un moment charnière de ma vie, où j'ai eu ce grand rêve, cette conviction intime, qu'un jour je construis une école de l'amour. C'est-à-dire qu'à 15 ans, je me disais, c'est quand même dingue, on passe notre vie à apprendre les maths, l'histoire, la géographie, mais rien qui concerne nos relations, et rien qui concerne nos relations d'amour, et pourtant c'est la chose la plus importante dans nos vies. Qu'est-ce qui est plus important que l'amour? Rien, quoi. Et pour ça, on n'avait aucun enseignement. Et là, je me suis dit que c'est pas normal. On nous laissait seuls, sans formation. On était un peu, je voyais tout le monde se galérer autour de moi. Je voyais que les gens étaient beaucoup en souffrance dans leur question sur leur sujet lié à l'amour, à la sexualité. Et là, je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et mine de rien, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, ma mission de vie, ma vocation, si on peut parler comme ça, parce que c'est très profond, je l'ai vraiment ressentie à 15 ans. Elle est née à l'adolescence. Et déjà, quand j'étais enfant, j'étais déjà très intéressée par toutes ces questions-là. Mais elle était nommée à l'adolescence. Donc, c'est aussi beau.
Et donc, tu dis à juste titre qu'il y a un manque d'éducation sexuelle.
Ouais.
C'est vrai qu'en fait, on est éduqué sexuellement par les partenaires qu'on rencontre, qui ne sont pas toujours des bonnes rencontres,
ouais,
et par les amis qu'on a autour de nous, mais qui ont notre âge et qui n'y connaissent rien. Comment pallier à ce manque ?
Je pense que c'est pour ça qu'il faut faire de la formation en éducation affective, relationnelle et sexuelle. C'est pour ça que moi, je passe mon temps à aller dans les collèges, dans les lycées, d'aller quand même donner quelques connaissances qui nous permettent de vivre des amours plus heureux, plus vivants, plus respectueux. Je pense que vraiment, ça c'est ma grande conviction, je pense que aimer et se laisser aimer durablement demande de développer des compétences spécifiques qui s'apprennent. Il y a des choses à apprendre. On sait tous comment faire des bébés parce qu'on est programmé pour ça. C'est le côté animal de la reproduction humaine. Mais être en relation, ça s'apprend. C'est vraiment la différence. C'est quelque chose de très humain. On n'est pas programmé pour s'aimer durablement. On est programmé pour s'aimer pendant au maximum 3 ans. Et après, ça s'arrête. Mais donc, si on veut construire une relation sur du temps long, il faut absolument développer des compétences humaines, exercer sa volonté, son intelligence. Sinon, on n'y arrive pas. Voilà.
Qui est-ce qui t'a appris à aimer ?
C'est une bonne question, Andrade. Qu'est-ce qui m'a appris à aimer ? Comme tu vois, je ne me suis pas sentie aimée. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment bien appris à aimer. Moi, je fais partie de ces gens qui savent parfaitement donner ce qu'ils n'ont pas reçu. J'ai passé ma vie, et je passe encore ma vie, à donner quelque chose que je n'ai pas reçu. Et donc, voilà, j'ai appris par ce manque-là, quoi. Alors après, on va dire, c'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont aimée. Ça fait un peu Cosette quand je dis ça, mais c'est comme ça vraiment que je l'ai vécu, quoi. Oui, bien sûr, je pense par exemple à cette grand-mère, elle m'a aimée à sa façon, elle avait cette attention pour moi. Évidemment, beaucoup d'amis, de personnes proches. Donc oui, j'ai reçu, bien sûr, des choses. Sinon, je ne serais pas vivante, on ne peut pas vivre sans amour. Donc je l'ai reçu, cet amour-là. Mais je crois en tout cas que j'ai développé une capacité à donner ce que je n'ai pas reçu.
Je pense aussi que quand on est hypersensible comme toi, on a toujours besoin de plus d'amour.
Oui.
On a une fragilité qui fait qu'on n'est jamais rassasié.
Oui. Et tu dis une hypersensible, oui, t'as deviné. Mais c'est vrai. En fait, ce qui est sûr, je suis obligée de le reconnaître, oui, je suis une ultra-sensible et j'ai un type d'intelligence et un type de sensibilité qui fait que c'est difficile d'être en relation avec moi. Parce que, comme tu dis, j'ai une soif d'absolu qui est démesurée. C'est ce que je disais à mes parents récemment, parce qu'on a eu l'occasion de beaucoup discuter sur mon enfance et mes fragilités, etc. Et eux reconnaissent qu'ils n'ont pas été par moments des bons parents, vraiment, qu'ils ont eu des vrais manquements et qu'ils les regrettent. Mais je leur ai dit, je pense que c'est vrai, ça c'est sûr, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, dans mon enfance, mais il y a aussi chez moi une ultra-sensibilité qui fait que j'ai tout perçu avec une vraie intensité. C'est-à-dire que chez moi, ça fait puissance 1000, quoi, tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, donc je répète, on est 8 enfants, donc c'est quand même une grande famille, n'ont pas tous vécu les choses de la même façon. On a tous voilà, une histoire particulière avec nos parents, mais quand même, je vois que d'autres s'en sortent bien mieux que moi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a cette grande sensibilité. Il y a une clé que j'ai eue il y a récemment et qui m'a permis, c'est là en fait que j'ai eu un déclic. Donc je vous le partage parce que si vous vous reconnaissez un peu dans cette grande sensibilité. Je vous disais que je ne me suis jamais sentie aimée de mon père ou de ma mère. Et on parle de cette ultra-sensibilité. Et j'ai compris récemment que quand on a le type d'intelligence que j'ai ou le type de sensibilité que j'ai, en fait, si je ne ressens pas les choses dans mon corps, si je ne ressens pas les choses émotionnellement, cette chose-là n'existe pas. Donc, tu peux me dire que tu m'aimes, mais si je ne le ressens pas dans mon corps ou émotionnellement, tu ne m'aimes pas.
Tu as besoin de vibrer.
J'ai besoin de ressentir et de vibrer pour que les choses existent. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'incompréhension dans certaines des relations, parce que c'est par mon corps et par mon monde émotionnel que je perçois le monde. Mais une fois que j'ai compris ça, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai reconnu que j'avais aussi fait une erreur. Ça veut dire que depuis 39 ans, je pensais que je n'étais pas aimable parce que je n'avais pas été aimée et que je n'étais pas aimée parce que je n'avais pas ressenti cet amour. Et avec cette grille de lecture, je me suis dit non, ce n'est pas parce que je ne ressens pas que je ne suis pas aimée. Et donc, j'ai pu reconnaître que mes parents m'ont aimée, et je crois qu'il faut vraiment que je le reconnaisse, enfin, je le reconnais, que mes parents m'ont aimée, simplement, ils ne m'ont pas aimée d'une façon à ce que je puisse ressentir leur amour.
Assez fort, en tout cas.
Assez fort. Et donc, c'est ça le truc, c'est que... Et donc, toute ma vie, jusqu'à présent, était basée sur une erreur. Je me suis trompée. Je me suis trompée en pensant que j'avais la vérité, parce que je ne ressentais pas leur amour, ils ne m'aimaient pas. Non, mes parents m'ont aimé. Simplement, je ne l'ai pas ressenti. Voilà, c'est deux choses différentes. Et une fois que j'ai accepté cette erreur que j'avais faite, une erreur de jugement, c'est-à-dire que la petite Thérèse, elle pensait ça, elle avait ce lien de cause et effet. Bah, si mon père me trouvait belle, il m'aurait dit « tu es belle ». Si mon père me trouvait intelligente, il m'aurait dit « tu es intelligente ». Si ma mère m'aimait, elle aurait pris soin de moi. Et donc, comme ça ne s'est pas passé, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, mais ce lien de cause et effet n'était pas un lien qui était juste. Ils peuvent m'aimer et pourtant avoir des difficultés à me l'exprimer. Bien sûr. Une fois que j'ai compris ça, alors mon monde a complètement changé. J'ai reconnu que moi, j'avais cette grande sensibilité et ma vie a changé ce jour-là.
On se construit dans ces histoires d'amour par ce qu'on a reçu dans notre éducation, en termes de tendresse, en termes de... Qu'est-ce qui... Donc, tu t'es mariée, tu as divorcé. Quand on croit en l'amour durable, ça peut sembler paradoxal de divorcer. Parce qu'on a envie que l'amour dure toujours. Mais toi, tu crois toujours en l'amour. Pourquoi ?
Alors, je ne sais pas. Là, on se parle, on est la veille de la Saint-Valentin. On est le 13 février. Je fais exprès de nommer la date parce que peut-être que je dirai autre chose dans quelques semaines ou dans quelques mois. Aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de croire que l'amour est possible pour moi. Je crois en l'amour. Je crois en l'amour pour les autres. Je le vois tous les jours dans mon cabinet. Je suis émerveillée de voir à quel point les gens peuvent s'aimer. Je suis émerveillée de voir à quel point l'amour transforme des vies. Je suis vraiment émerveillée de voir que l'amour existe. Et l'amour durable est possible, j'en suis convaincue. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincue que moi, je puisse être aimée vraiment et vivre une grande histoire d'amour. Et donc là, j'ai des doutes. Donc peut-être que, c'est pour ça que j'ai fait exprès de donner la date, parce que ça peut changer. Mais là, je doute que ce soit possible pour moi. C'est comme si j'ai l'impression que c'est pour les autres, mais pas pour moi. Je crois en l'amour, je veux vivre l'amour, je défends l'amour, mais moi, dans ma vie, je n'ai pas vécu des belles histoires d'amour jusqu'à présent. J'attends encore mon prince charmant. Peut-être qu'il va venir un jour. Non, je dis ça, mais j'ose même pas espérer parce que j'ai peur d'être déçue. Donc là, je suis encore un peu en phase de convalescence, tu vois. Mais je me laisse la possibilité que peut-être qu'un jour, je pourrais vivre cette grande expérience d'aimer et d'être aimée, en fait. C'est juste ça. C'est ça que j'aimerais vivre, aimer et être aimée.
Mais est-ce que le prince charmant existe ? Est-ce que quand on est, est-ce que tu es romantique ? Est-ce que peut-être que tu as mis trop d'attentes dans ces histoires-là ?
Mais c'est ça qui est compliqué, parce que quand tu as le profil que j'ai, où il y a ce côté très exigeant, très absolutiste, très, très sensible, très tout est trop, et d'une intensité folle, l'histoire qui se raconte autour de moi, c'est de dire que je ne serai jamais heureuse, puisque je suis trop tout. Mais à tout plan de vue. Et donc, en fait, comme si l'insatisfaction était permanente chez moi et que je ne peux pas juste être heureuse de ce que j'ai. Ce que je me dis, c'est que peut-être que je n'étais pas avec les bonnes personnes, que je ne m'engageais pas, voilà, j'avais peut-être un discernement qui n'était pas bon aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est l'histoire qui se raconte. C'est que, et d'ailleurs, c'est ça qui est difficile pour moi, c'est, j'avais cette phrase quand j'étais petite, depuis que je suis petite, qui entoure ma vie, c'est « Thérèse, tu es inapte au bonheur ». Et à cette idée que moi, je serais inapte au bonheur à cause de ce que tu viens de dire, tu vois, à cause du fait que je sois trop sensible, trop exigeante, trop absolutiste, trop tout. Mais même aussi trop sensuelle, ma beauté est un problème, trop belle, trop, tout est trop chez moi. Mais voilà, je sais pas. On se reparle dans 50 ans, on verra si j'ai retrouvé un homme qui trouve ça magnifique ou bien si j'effraie tout le monde encore sur ma route à force d'être trop, je ne sais pas.
Ça s'apprend aussi à être ouvert au bonheur.
Oui, je pense que c'est ça que je pourrais apprendre ces prochaines années.
Quand les nuages s'accumulent, comment le soleil revient ? Qu'est-ce qui te fait du bien ?
Ce qui me fait du bien, je pense que c'est déjà la contemplation de la nature. C'est un peu cucu quand je dis ça, mais je pense que ça, ça me fait vraiment du bien. J'ai besoin régulièrement d'aller en pleine nature et de voir à quel point le monde est beau. J'ai besoin de voir du beau. Donc ça me fait du bien. Ce qui me fait du bien aussi, c'est évidemment, peut-être, je sais pas, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais chez moi, en tout cas, c'est évidemment mes trois enfants. J'ai une relation magnifique avec eux. Ce sont des très belles personnes, on s'entend extrêmement bien. Et donc, ça me fait du bien de passer du temps avec eux.
Tu te sens aimée par tes enfants ?
Ah, je me sens énormément aimée par mes enfants. Ça, c'est vraiment trois petites personnes qui savent exprimer l'amour et qui se sentent aimées de moi. Et je me sens aimée d'eux. C'est vraiment magnifique. Là, pour le coup, j'ai l'impression aussi, avec ma maternité, tu vois, d'avoir réparé quelque chose de mon histoire, tu vois, d'avoir pu vivre quelque chose que je n'ai pas vécu, de leur avoir donné quelque chose que je n'ai pas reçu. Et aujourd'hui, ils me le redonnent, tu vois. Donc, c'est trop beau.
Est-ce qu'il n'est pas là, ton bonheur ?
Oui. Moi, j'ai un vrai bonheur dans ma maternité. J'étais très heureuse d'être maman de ces enfants et j'aime beaucoup la relation que j'ai avec eux. C'est ma plus grande fierté. Enfin, je veux dire, je suis très heureuse. J'ai une maman très, très, très heureuse. Là, tu vois, j'ai été très éprouvée dans ma vie conjugale avec deux divorces. Donc, c'est hyper rude pour moi. Ça vient vraiment me challenger dans mes valeurs les plus profondes. Enfin, vraiment, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Mais je n'ai aucune autre épreuve ailleurs. Tu vois, par exemple, mes enfants, mais c'est hyper facile pour moi d'être maman, quoi. Je n'ai pas eu aucune difficulté, ça ne me créait aucun souci. Je ne sais pas ce que c'est un enfant malade, je ne sais pas ce que c'est un enfant qui ne va pas bien, je ne sais pas ce que c'est avoir une relation conflictuelle avec ses enfants. Je ne sais pas toutes ces épreuves-là de la maternité, je ne les connais pas, je n'ai jamais vécu. Donc, tu vois, voilà, c'est marrant. Et c'est vrai que cette phrase-là, moi, elle me porte, elle me travaille beaucoup. C'est « on est toujours éprouvé sur la grâce reçue ». C'est une phrase qui vient de je ne sais qui, comme... philosophe ou personne spirituelle, mais il y a l'idée que, effectivement, moi j'ai une grâce qui est donnée sur la question d'amour et je passe mon temps à faire en sorte de prendre soin des relations d'amour et je suis éprouvée juste là, mais pas ailleurs. Je suis pas éprouvée, j'ai pas de maladie, pas de truc, pas de problème, pas de guerre, pas de rien d'autre, juste là. C'est quand même mystérieux.
Et rien que l'amour de tes frères et sœurs, l'amour que tu partages avec tes frères et sœurs, l'amour que tu partages avec tes enfants, ça c'est des grâces, c'est des.
Ouais. Donc j'ai vraiment
des rayons de soleil.
Alors après mes frères et sœurs, au départ c'est vraiment un socle et on s'aime beaucoup, mais quand j'ai divorcé la première fois, ça c'était un cataclysme et mes frères et sœurs m'ont rejeté, quasi tous sauf une.
Ils l'ont mal vécu.
Ils l'ont très mal vécu mon divorce et donc j'ai été vraiment en rupture familiale à ce moment-là. Ça a été très douloureux pour moi parce que c'était justement mon repère. Donc maintenant aujourd'hui on s'entend de nouveau bien et on a une belle relation, mais elle est passée aussi par un moment de rejet et d'incompréhension mutuelle, quoi. Voilà.
Vous avez réussi à réparer.
On a réussi à réparer. C'est ça qui est trop beau.
C'est chouette.
On a réussi à réparer. Ouais, c'est beau. Tu vois, en tout cas, ça, c'est magnifique aujourd'hui. Ça, je veux vraiment en témoigner. C'est que j'ai réussi à réparer la relation avec mon père. J'ai aussi réussi à réparer la relation avec ma mère. J'ai réussi à réparer la relation avec mes frères et sœurs. Et donc voilà, et puis même j'ai réussi à réparer la relation avec mon premier mari, avec qui vraiment, je trouve qu'on a une belle relation aujourd'hui, tu vois. Hier encore, il était là à l'enterrement de ma grand-mère, on s'est serré dans les bras pendant longtemps, à pleurer dans les bras l'un de l'autre, et c'est beau quoi, tu vois, de dire
qu'est-ce que tu gardes de lui ? La tendresse ?
Ouais, c'est quelqu'un qui était... Lui, il savait aimer, justement. Il savait aimer, lui. Il était... il était très attentionné. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, il savait aimer. C'est-à-dire, il savait donner ce dont tu as besoin. Mais c'est quand même une force. Ce que je garde de lui... Plein de choses que je garde de lui. Mais déjà, mes trois enfants magnifiques. Et puis... c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Et puis, je garde aussi de lui... je pense que c'est quand même avec lui que j'ai découvert aussi ma vie sexuelle et c'était quelque chose de très beau et très bon avec lui. Donc ça aussi, tu vois, c'est quelque chose de précieux que j'emporte avec moi. Donc voilà, non, je garde de belles choses de lui.
Quel est l'endroit au monde où tu te sens le mieux ?
J'ai du mal à y répondre à ta question parce que j'ai été attachée à deux lieux que j'aimais énormément. Il y en a un qui s'appelle, c'est un petit village dans la montagne, qui s'appelle La Grave, c'est en face de la Mège, qui est une montagne sublime. C'est le dernier sommet d'Europe à avoir été conquis. Et c'est le lieu d'où vient la famille de mon premier mari. Et c'est un endroit que j'adore, mais vraiment, c'est un de mes endroits préférés sur Terre.
Pourquoi ?
Parce qu'il est ultra inspirant, c'est de la haute montagne. C'est vraiment cette montagne qui est forte, qui est belle et qui te donne envie de gravir des sommets, c'est rude à la fois, enfin, c'est tout ce que j'aime comme paysage, c'est fort, c'est puissant, c'est impressionnant, j'aime ça. Et puis, à la faveur de notre divorce, je n'ai plus pu aller dans ce petit village, et ça, c'était très douloureux pour moi de me séparer de ce petit village. Puis j'ai rencontré un autre homme, et cet homme est complètement breton. Autre ambiance. Et ce que j'ai adoré aussi avec cet homme, entre autres choses, il y a plein de choses quand même que j'ai aimé avec lui, mais aussi c'est qu'il m'a fait découvrir la Bretagne. Et la Bretagne, c'est sublime. Je suis émerveillée par la Bretagne. La Bretagne et la montagne, souvent, ils vont bien ensemble. Et on a retapé un petit moulin à marée, donc un moulin sur l'eau, une petite maison sur l'eau. Et cet endroit était mon paradis sur terre. Et j'aime cet endroit et je me sentais bien dans cet endroit. C'était vraiment un refuge. Et comme j'ai aimé La Grave, j'ai aimé cet endroit à côté de la Trinité-sur-Mer, petit moulin posé sur l'eau et que j'adore. Et là, tu vois, où que tu ailles dans la maison, tu es sur l'eau. Et donc j'écrivais, j'étais sur l'eau, je cuisinais, j'étais sur l'eau.
C'est très apaisant.
Hyper apaisant. Et c'était mon petit coin de paradis. Et malheureusement, à la faveur de cette deuxième rupture, je quitte ce deuxième coin de paradis.
Il faut trouver un autre coin de paradis.
Tu vois, c'est hyper dur pour moi d'avoir ces petits coins de paradis qui me sont retirés parce qu'ils sont associés à un homme et c'est eux qui, chaque fois, qui gardent cet endroit. Parce que moi, je trouve ça presque un peu injuste, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est des endroits qui me portent, qui me font du bien. Donc, il faut que je me trouve un autre coin.
Tu trouves ton lieu à toi.
Mais je pense qu'au final, tu vois, je vais répondre quand même la vraie réponse, qui est de dire que moi, où que j'aille, je peux me sentir bien. J'ai une vie intérieure assez riche. La vérité, c'est que je me sens bien partout. J'ai une capacité à me sentir bien partout, ça c'est sûr. Et particulièrement aussi avec mes trois enfants, comme ça, quand on est tous les quatre, je me sens vraiment particulièrement bien. Voilà. Mais j'ai cette capacité à être heureuse partout, enfin, être bien partout. Je n'ai pas besoin d'être dans un endroit précis.
Tu organises des stages pour les célibataires, pour les aider à aimer et à se laisser aimer. Je trouve ça génial. Est-ce que tu peux m'en parler ?
Oui, j'organise ces stages, donc je dis réservés aux célibataires, mais c'est des stages que je peux et que je vais décliner aussi pour les couples, pour les personnes qui sont divorcées ou veuves, peu importe un peu l'état de vie, parce que finalement cet enjeu de comment est-ce que j'arrive à me laisser aimer et à aimer, c'est un enjeu que nous avons tous, quelles que soient nos histoires et les types de relations que nous avons. En fait, ce qui est intéressant dans ces stages réservés aux célibataires, c'est que je crée un groupe homogène de personnes qui vivent une expérience similaire, quoi. Donc ils ont plus ou moins le même âge et ils sont plus ou moins dans le même état de vie. Et ils ont découvert au travers de l'expérience de la solitude qu'il y avait des choses au fond d'eux qui les empêchaient de connecter ou de faire en sorte que la connexion dure. Donc au travers de différents ateliers, quand je dis atelier, ça veut dire que ce n'est pas des conférences que je donne, ça veut dire que c'est des exercices très concrets de discussion, d'introspection, etc., un peu d'où des outils de développement personnel aussi, qui viennent particulièrement de la formation à laquelle j'ai été initiée, c'est la thérapie relationnelle Imago. Donc, je m'inspire beaucoup de cette approche-là. Bref, tout ça pour dire qu'au travers de différents ateliers, ils vont dénouer ce qui empêche d'aimer et de se laisser aimer durablement. Mais d'autres personnes font l'expérience qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui les empêchent de connecter au travers de l'expérience de l'altérité, au travers de l'expérience du couple. Et là aussi, on fait presque les mêmes exercices. Finalement, chacun va se rendre compte qu'à un moment, on a des blocages, on a tous une histoire, et que le travail de notre vie, c'est de se libérer intérieurement. Ça veut dire de dénouer progressivement toutes ces choses bloquées. Tu vois, et un peu comme ce que je t'ai confié aujourd'hui. Quand je te dis que moi, mon histoire, elle a été blessée à différents endroits, et aujourd'hui, ben, j'essaie de dénouer ça, et je pense que la raison pour laquelle j'ai eu tellement de difficultés en amour et j'ai été si malheureuse en amour, c'est parce que j'avais une histoire enfant qui était compliquée, qui était souffrante pour moi. Mais ce qui est beau, c'est de se dire qu'on est aussi capable de pouvoir réparer notre histoire au travers des différentes relations qu'on va avoir, et pour après vivre la vie qu'on mérite de vivre. Donc, on a tous des histoires plus ou moins cabossées, mais donc l'objectif de ces stages, c'est d'arriver à les dénouer. Et alors maintenant, j'ai une nouvelle formule, parce que ces stages, je les fais depuis quelques années. C'est à Paris, donc c'est plutôt, je dis, vous arrivez célibataire, vous repartez célibataire. L'objectif, c'est pas se mettre en couple, c'est vraiment d'arriver à travailler sur soi, mais avec le groupe, avec les autres, et on avance tellement mieux avec les autres. Donc je trouve ça très très puissant comme proposition. Mais maintenant, la nouvelle proposition, c'est aussi d'avoir ces stages-là, mais dans des lieux où on peut aussi faire du sport, et des lieux qui sont inspirants. Je t'ai parlé de mon besoin de voir du beau, d'être dans une belle nature, et donc j'emmène ces stages dans des endroits incroyables. Et là, je reviens tout juste de 5 jours de ski de randonnée à l'hospice du Grand Saint-Bernard. C'est à 2500 mètres d'altitude. C'est en Suisse, donc en plein milieu des montagnes. Il faut monter à ski de rando pour aller dans cet endroit-là. Et là, j'ai emmené 32 célibataires. On a passé tout ce moment ensemble. Mais il y avait aussi des moments évidemment festifs, des moments pour se rencontrer. Ça crée des amitiés et je trouve ça super. Et donc, je vais continuer à développer ça avec différentes propositions.
Ça permet aussi de prendre du recul, d'être en pleine nature.
Oui, ouais, j'adore prendre le recul. La nature, le combo nature, lieu inspirant. Mais l'hospice du Grand Saint-Bernard, c'est aussi un lieu spirituel dans le grand sens du terme. C'est toujours bon d'être dans ces lieux-là. Il y a une âme, quoi. Et puis le sport, quand même. Je pense que c'est important, l'activité physique. Et avec des petits topos et des ateliers. Non, je pense que c'est une formule magique. Et c'était un vrai succès pour cette première. Et donc, j'espère qu'on va continuer encore à le proposer.
C'est génial. En fait, ce que tu cherches à faire dans ta vie professionnelle, c'est de protéger les gens, les célibataires, les couples, de ce que toi-même tu as vécu dans tes blessures, dans tes... tu t'es pas senti assez aimé, du coup tu n'as pas su te laisser aimer, en fait. Enfin, tu n'as pas su peut-être rencontrer aussi les bonnes personnes qui pourraient t'aimer comme tu en avais besoin. Et donc du coup, là, tout ton travail d'une vie, c'est d'éviter à ces gens-là de vivre la même chose que toi.
Oui, je pense que ton analyse est juste, merci, après cette petite psychanalyse, mais c'est très vrai, certainement qu'il y a de ça, parce qu'on peut se poser la question de pourquoi est-ce que je mets tant d'énergie à parler d'amour au monde, pourquoi je mets tant d'énergie à accompagner les gens à s'aimer plus, à s'aimer mieux, pourquoi je mets tant d'énergie à aller former des enfants, des collégiens, des lycéens, des étudiants sur ces sujets, c'est que je pense, parce que je l'ai vécu, que nous avons besoin fondamentalement d'aimer et d'être aimé, quoi. Et quand on n'a pas cette expérience-là, notre vie, elle n'a aucun sens et notre vie est malheureuse. On peut avoir toutes les richesses du monde, on peut avoir le meilleur métier du monde, si on ne se sent pas aimé, il y a quelque chose qui nous manque de fondamental. Et moi, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Et pourtant, j'ai beaucoup reçu extérieurement dans ma vie. Et je vous dis, je n'ai pas tant vécu de maladies, de temps de guerre, etc. Mais je n'ai pas eu l'essentiel ou je n'ai pas ressenti l'essentiel. Et c'est pour ça que cet essentiel, je veux le répandre dans ce monde. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être à cause de mon histoire et de cette sensibilité que j'ai, que je fais le métier que je fais aujourd'hui, et surtout que je le fais avec joie. C'est-à-dire que j'adore ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais, et justement, je me sens à ma place. Et là, c'est mes moments de joie et de bonheur.
Tu y crois, tu sais que tu penses que c'est possible.
Je pense que c'est possible. Est-ce que c'est pour seulement pour réparer certainement qu'il y a quelque chose de moi qui veut aussi qui veut réparer quelque chose, mais je pense que au-delà de ça, c'est comme si j'avais cette conviction intime que l'amour est nécessaire à nos vies et que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos relations, quoi. Et donc c'est pour ça que je mets toute mon énergie à ce niveau-là, je crois. Je me montre à la fois déterminée dans mes combats parce que je le suis, avec pleine de convictions parce que je le suis. Mais comme voilà, je me suis mise un peu à nu devant toi en te partageant un peu mon histoire, et c'est que une toute petite partie et qu'il y aurait mille autres choses encore à partager, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de failles chez moi. Et voilà. Mais je pense aujourd'hui que mes failles sont ma force. Voilà. Tout doucement, hein, je commence à le comprendre. Et que aussi, parce que tu vois, j'aime beaucoup le nom de ton podcast, Solaire. Les gens disent de moi depuis que je suis petite que je suis solaire. Et solaire, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de lumineux qui passe. Et j'aime beaucoup cette qualité qu'on puisse me reconnaître. Et je, en tout cas, je serais heureuse d'être vraiment cette personne-là solaire. Mais je pense qu'on est aussi solaire parce qu'on est fêlée, quoi. Et moi, je suis une fille fêlée.
Enfin, on a tous une part d'ombre.
Tu vois, des parts d'ombre, tu sais, j'ai comme une sorte de fêlure. Et donc, la lumière, elle peut passer. J'ai cette image-là de plus en plus. Je me dis, mais la lumière, elle passe parce que j'ai des fêlures. Si j'étais madame parfaite, avec la vie parfaite, avec les parents parfaits, tout bien comme il faut, je ne ferais pas ce que je fais. Et je ne serais pas solaire, je ne serais pas lumineuse, parce qu'il n'y a rien qui peut passer, parce que tout est lisse, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de... Tu vois, j'aime bien cette phrase qui dit, voilà, heureux les fêlés, parce qu'ils laissent entrer la lumière et passer la lumière. Et j'essaye de mûrir cette phrase-là en me disant, ben voilà, c'est peut-être ça mon histoire et c'est ça ma vie. Et j'ai envie de je me parle à moi-même en disant, Thérèse, sois heureuse de ça, d'avoir ces fêlures, parce que la lumière peut passer. Si j'avais pas eu ces fêlures, bah non, je serais pas là à ton micro, je serais pas en train de sortir un livre pour lutter contre la pornographie, je serais pas en train de, dans quelques minutes, accueillir des personnes qui viennent parce qu'ils ont des difficultés dans leur vie de couple, je ne serais pas en train de prendre un train demain pour aller à Lyon voir des milliers de jeunes pour leur parler d'amour et de sexualité, je ne ferais pas ça. Donc tu vois, c'est mon histoire, elle est bien fêlée, mais au moins, la lumière, j'espère, elle passe un tout petit peu chez celles et ceux qui le souhaitent.
Magnifique. Pour finir, il y a un mini questionnaire que je pose à chaque invité qui s'appelle Arrêt sur image. Il faut répondre du tac au tac. Je voudrais que tu fermes les yeux. Ferme les yeux et écoute. Quel est le bruit ou le son qui te procure le plus de sentiments positifs ?
La respiration.
Ferme les yeux et goûte. Quel est le plat que tu aimes le plus et par qui est-il préparé ?
Le vol au vent de ma grand-mère.
Ferme les yeux et sens. Quelles sont les odeurs qui t'émeuvent le plus ?
L'odeur du lait maternel.
Ferme les yeux et ressens. Décris-moi une sensation corporelle qui te fait du bien.
L'orgasme.
Ferme les yeux et imagine. Pense à quelqu'un qui, en ce moment, te rend particulièrement heureuse. Ouvre les yeux et parle-moi de cette personne.
Ah, il y a une personne qui me rend très heureuse en ce moment. C'est une personne que j'ai rencontrée récemment, au cours de ma promotion de livre. On s'est croisés. C'est quelqu'un qui écrit aussi. Voilà. Et j'adore. On échange, on discute, et on apprend à se connaître. Et ça me rend heureuse. Je lui ai dit hier, j'ai dit, ah, c'est une rencontre totalement improbable et qui me fait du bien en ce moment. Là, tout de suite, là, aujourd'hui, elle me rend heureuse, cette rencontre.
Super, merci. Merci beaucoup, Thérèse.
Merci pour toutes tes questions.
Merci d'avoir écouté le podcast Solaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à mettre des étoiles ou commentaires sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre ou me contacter sur le compte Instagram Solaire Journal.